Le magazine des sports sur Radio Rythme Bleu avec une première partie consacrée aux résultats sur la scène nationale et internationale. Mickaël Gineski, on commence par le football et la 15e journée de Ligue 1 qui s'est conclue par une victoire du PSG sur l'Olympique Lyonnais. C'était la grande affiche de ce week-end.
Exactement, succès du PSG, 3-1. Les Parisiens leaders du championnat de France qui ont fait tomber les Lyonnais. Les Lyonnais qui avaient pourtant réussi à remonter dans le classement jusqu'à la 5e place. Mais grâce à des buts de Dembélé, Vitinha sur pénalty et Ramos en fin de partie, Paris a mis les choses au clair après deux matchs nuls d'affilée en Ligue 1 lors des dernières sorties. Pas question de flancher donc pour garder les commandes du championnat de France. Autre résultat du jour, et le FC Nantes qui n'a pas réussi à enchaîner sur un deuxième succès. Le club d'Antoine Comboiré a été battu à Brest 4-1, un score qui peut paraître sévère alors que les Canaries ont tout tenté dans les dernières minutes de la rencontre. Le score était toujours de 2-1 à la 88e minute de jeu. Antoine Comboiré ne jette toutefois pas l'éponge, toujours dans l'optique de réussir à maintenir le club dans l'élite.
Tant qu'on ne me dit pas donc d'arrêter, je suis là prêt à me battre, puis je sais que là... On a des bons joueurs aujourd'hui, donc c'est un problème de confiance et puis surtout être meilleur défensivement pour pouvoir donc gagner les matchs. On est loin donc de nos standards, on est loin donc de ce qu'on en espérait, donc voilà. C'est pas donc la première moitié de saison qu'on souhaitait.
Et les Nantais qui pointent à la 14e place à seulement un point de la zone rouge. Pour Brest, c'est une semaine parfaite après la victoire en Ligue des Champions contre Eindhoven. Encore des résultats. Une victoire de Rennes sur Angers 2-0. Strasbourg qui a battu le Havre 3-0. Montpellier et Nice ont fait match nul, 2 buts partout. Ce week-end, Saint-Etienne a perdu à Toulouse 2-1. L'OM et Monaco à la lutte à distance pour la 2e place ont tous les deux fait match nul. Marseille contre Lille, 1 but partout. Et Monaco à Reims, 0-0. Conséquence, les Marseillais restent deuxième juste devant l'ASM grâce à un meilleur goal average. Enfin, encore un résultat au Serre et Lens qui ont fait aussi match nul, 2 buts partout.
Et on va continuer à parler football en faisant notre traditionnel tour d'Europe.
Oui, en Angleterre tout d'abord, le derby mancunien aujourd'hui, Manchester City qui a perdu contre Manchester United 2-1. Alors si United est 13e du championnat anglais, cette défaite met plus que jamais en péril Pep Guardiola à la tête des Citizens, pourtant 5e, mais qui n'arrive plus à sortir de cette mauvaise passe. Pas de victoire pour Arsenal contre Everton, match nul 0-0. Et puis les Reds de Liverpool, leaders qui ont fait aussi match nul contre Fulham, 2 buts partout. En Espagne, aujourd'hui, le Barça s'est incliné contre Leganés, 1-0. Le Real Madrid, lui, a fait match nul sur la pelouse du Rayo Vallecano, 3 buts partout. Conséquence, l'Atlético de Madrid, bien heureux, prend les commandes de la Liga après sa victoire sur la plus petite des marques face à Retafe, 1-0. La Bundesliga allemande et la défaite du leader, le Bayern de Munich à Mayence ce week-end, 2-1. Enfin, dans le calcio italien, ce succès de Naples à Udinese, 3-1. La Juve fait match nul contre Venise, la Lanterne Rouge, 2 buts partout. Match nul encore pour le Milan AC face au Genoa, 0-0. Il y aura une belle affiche à suivre demain matin. La Lazio de Rome recevra l'Inter Milan.
Allez, on passe au rugby avec des fortunes différentes pour les clubs français qui disputaient ce week-end la 2e journée de Champions Cup.
Et le RC Toulon qui a décroché un succès sur le fil contre les Écossais de Glasgow. Une victoire 30-29. Le RCT qui prend la tête de la poule D à l'issue de cette 2e journée. Dans le même temps, le Stade français s'est incliné contre les Anglais des Saracens, 28-17. Les Parisiens sont en 5e position dans la poule C. Enfin, le Stade toulousain de Rodrigue Netti est allé l'emporter sur le terrain des Anglais d'Exeter. Un festival du puissant Toulouse à l'extérieur, 64-21, pour s'installer solidement aux commandes de sa poule. Ce week-end déjà, l'Union Bordeaux-Bègles avait fait parler la poudre en Ulster. Succès de l'UBB de Yoram Moefana, 40-19. En revanche, toujours en Irlande, les Clermontois ont subi la loi du Leinster. Défaite des Auvergnats, 15-7. Enfin, La Rochelle s'est baladée face aux Anglais de Bristol, 35-7. Les Castrais, eux, s'en sont sortis in extremis contre le Munster. Succès à domicile, 16-14. Le Racing 92, lui, a perdu sur le terrain des Sales, 29-7.
Allez, on va passer à l'actualité du handball. Et malheureusement, l'équipe de France féminine a quitté l'Euro sans médaille.
Et oui, après un sans-faute jusqu'aux demi-finales, les Bleus, vice-championnes olympiques et championnes du monde, ont subi 2 échecs, battus samedi par les Danoises dans le dernier carré. Elles se sont ensuite inclinées dans la petite finale face aux Hongroises. Défaite sur le score serré de 25-24. Ce sont les norvégienne qui remporte la finale en surclassant le Danemark 31-23 pour s'offrir un 10e sacre européen.
On passe à la natation avec la fin des mondiaux en petit bassin à Budapest et le Calédonien Maxime Grousset qui était engagé.
Et pour la dernière journée, le Calédonien a terminé 7e de la finale du 50 mètres nage libre. Un chrono de 20 secondes 90 centièmes, insuffisant pour aller chercher Jordan Crooks, l'Australien tombeur du record du monde de la distance en 20 secondes 19 centièmes. Maxime Grousset était également engagé avec l'équipe de France sur le relais 4x100 mètres nage libre qui a terminé à la 7e place, épreuve remportée par les athlètes russes. On rappelle que Maxime Grousset avait déjà décroché une médaille d'argent hier sur le 100 mètres papillon et puis il s'était qualifié pour la finale du 100 mètres nage libre où il avait terminé à la 6e place.
Et puis autre Calédonien engagé sur la scène internationale, c'est le golfeur Paul Barjon, mais il manque malheureusement l'occasion d'accéder au PGA Tour et au Korn Ferry la saison prochaine.
Oui, engagé à Pontevedra Beach en Floride, Paul Barjon, l'ancien joueur de Dimbéa ainsi qu'un autre Français, Jérémy Gandon, n'ont donc pas accédé à l'élite du golf nord-américain ni à l'antichambre du PGA Tour. Ces entrées étaient réservées aux 5 premiers. Pour un coup seulement, Paul Barjon a aussi raté son droit de jeu sur le Korn Ferry Tour. Il a terminé à 4 coups au-dessus du par, alors qu'un coup l'aurait propulsé dans les sélectionnés pour pouvoir retrouver le Korn Ferry.
Et on va terminer cette première partie avec de la voile et la suite du Vendée Globe.
Et ça bouge en tête de ce Tour du Monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Au dernier pointage, Johan Richom, le skipper de Paprec-Arkéa, continue de revenir à grande vitesse sur le leader Charlie Dalin à bord de Massif. Seuls 66 000 nautiques séparent les deux navires au sud de la Nouvelle-Zélande. Sébastien Simon sur Groupe Dubreuil est troisième. Il reste au contact du duo de tête. Une échappée qui a donc pris les devants sur le reste de la flotte. Thomas Ruyant sur Vulnérable est déjà à plus de 800 000 nautiques. Nous en sommes à 35 jours de course.
Allez, on va reparler football dans un instant, mais pour parler des sélections de Nouvelle-Calédonie avec notre invité qui est Johan Sidaner, on se retrouve dans un petit instant.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés. Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout-petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
Au cœur de Noël, une initiative de Radio Rythme Bleu parrainée par l'OPT avec le concours de la Croix-Rouge, de la Société Saint-Vincent-de-Paul, du Secours catholique et de la Table ronde française. Au cœur de Noël, c'est la part du cœur, la vôtre, la nôtre, pour que les enfants ne soient pas oubliés au soir de Noël. Au cœur de Noël, une belle histoire qui s'écrit grâce à vous. Tous les jours, de 7h30 à 19h, venez déposer à la radio aux 4 rue de Sébastopol vos cadeaux et jouets pour les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Au cœur de Noël, avec RRB.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La suite du magazine des sports, on retrouve Jean-François Baudin.
Oui, une deuxième partie consacrée à l'actualité sportive en Calédonie. On va revenir sur les résultats du week-end, mais avant cela, on va faire un point sur l'actualité des équipes de Nouvelle-Calédonie de football. Et on le fait, Léo Fichou, avec notre invité, qui est donc Johan Sidaner, le responsable des sélections.
Oui, bonjour Johan Sidaner.
Bonjour à vous.
Vous êtes, on le rappelle, donc sélectionneur de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi responsable des sélections. Une année compliquée, forcément, pour toute la Calédonie, mais aussi pour le sport, pour le football. Malgré ça, de bons résultats en fin d'année. Est-ce qu'on peut faire le retour déjà sur cette année 2024 ?
Oui, on peut jeter un œil dans le rétroviseur. Mais effectivement, c'est plutôt réjouissant de notre côté. On espère avoir amené un peu de bonheur dans cette situation qui n'était pas simple du tout.
Oui, pas simple. Il a fallu s'adapter. Les championnats, la Super League arrêtée. Les joueurs, du coup, qui étaient moins dans le sujet. Mais des sélections qui continuent à se faire. On parle de la sélection A, déjà, pour commencer, avec, en cette fin d'année, les qualifications pour la Coupe du Monde.
Oui, en mars 2025, on est qualifié pour jouer cette fameuse demi-finale pour l'accès à la Coupe du Monde 2026.
Donc, ce sera face à Tahiti. Une équipe qu'on connaît très bien ici, forcément.
Oui, oui, que tout le monde connaît très bien. C'est une belle affiche, donc on espère être à la hauteur.
Et pour se qualifier du coup face à Tahiti, il y a eu les phases de poule en octobre, en septembre, octobre, novembre, voilà, trois matchs. Comment on se prépare sur ces matchs-là quand on voit que les joueurs ici ne jouent pas ou très peu? Et puis après, il y a un deuxième groupe qui est aussi en métropole et en Europe.
Oui, c'est un mélange, un savant mélange qu'il a fallu... Il a fallu bien travailler et les résultats nous montrent qu'on a plutôt bien travaillé. On félicite forcément les joueurs, puisque c'est grâce à eux. Et sans bons joueurs, on n'y arriverait pas. Donc forcément, on est forcément marqué par la qualité des joueurs. Mais aussi, et des fois, c'est ça où on a un peu de doute parfois ici, c'est sur leur investissement. Et ils ont été vraiment investis fin juin, début juillet. Les garçons n'avaient pas de championnat et pourtant se sont entraînés et ont vraiment travaillé très dur, très fort. Et puis je félicite aussi forcément le staff technique. Enfin, on appelle ça l'équipe derrière l'équipe. Il a fallu travailler de manière très cohérente. Et puis on pourrait féliciter et remercier les clubs de Super League qui, j'ai pas manqué de le souligner, ont joué le jeu et nous ont permis d'arriver le jour J en grande forme.
Oui, puisque les quelques équipes de Super League ont continué à s'entraîner, ont continué à faire des tournois amicaux. Il y a eu des matchs amicaux aussi de la sélection face à ces équipes-là, c'est ce qui a permis de se préparer pour la Coupe du Monde ?
Oui, il y a eu pas mal de choses de mise en place. Il y a eu des tournois ici à Dembéa. On a eu toute cette campagne de matchs amicaux que la fédération a mis en place. Et sans ces outils, sans ces rendez-vous, on n'aurait pas pu réussir cet exploit. Parce qu'on peut considérer ça comme un exploit. Vu la situation actuelle, vu toutes les difficultés qu'on a eues à mettre ça en place, le fait d'être là au rendez-vous en mars, en Nouvelle-Zélande, c'est assez historique.
Et justement, un exploit, un appel peut-être un autre, deux autres en mars. D'abord Tahiti, puis après peut-être une finale. On peut expliquer un peu comment ça va se passer, ces demi-finales-là ?
Eh bien, le schéma, il est assez simple. On joue le
vendredi. Faut tout gagner.
Faut tout gagner. Effectivement, si c'était si simple, mais effectivement, le vendredi 21 mars, on joue à Wellington la demi-finale contre Tahiti. De l'autre côté, eh bien, il y aura la demi-finale Nouvelle-Zélande-Fidji. Les vainqueurs se rencontrent pour un accès direct à la Coupe du Monde.
Et l'équipe qui perd en finale peut toujours espérer une qualification.
C'est ça. En battant Tahiti, en nous qualifiant pour les finales, pour la finale, on est assuré de se présenter au moins sur un barrage intercontinental en mars 2026 avec d'autres sélections de continents différents.
Donc ça arrivera en mars et malheureusement il y avait aussi une compétition en décembre qui devait se jouer actuellement. Vous auriez dû participer à la Melanesia Cup.
Et oui, c'est ça que le grand public ne peut pas forcément savoir. On aurait dû jouer avant toute cette campagne de qualification. Il y avait la Nations Cup en juin sur laquelle on a dû déclarer forfait. Donc on n'avait pas de match de préparation. Il y a la MSG Cup qui se joue actuellement effectivement au Salomon et sur laquelle on était engagé, mais faute de moyens, là on a dû déclarer forfait.
Forfait chez les A, mais par contre chez les jeunes, une belle année qui s'est jouée, les sélections jeunes avec des qualifications pour les prochaines Coupes du Monde. Les U17, les U20, les féminines aussi, les jeunes féminines.
Ben oui, c'est là où je, effectivement, de mon côté, je trouve ça fantastique, mais parce que ce sont des résultats probants, qui viennent récompenser un travail de qualité, mais c'est surtout ça. Ça dénote surtout d'un état d'esprit, d'une résilience de la jeunesse en Calédonie qui forcément doit être montrée en exemple, qui doit montrer que même dans les moments difficiles, le sport réunit, la cohésion, l'unité de tous ces gamins, de tous ces joueurs, de toutes ces joueuses, nous ont vraiment monté très haut. Donc effectivement, en U17. Il y a la Coupe du Monde en septembre prochain au Qatar et les U20 se préparent pour la Coupe du Monde de la catégorie au Chili dans la foulée.
Donc deux Coupes du Monde l'an prochain. Il y a eu cette année chez les U17 féminines, c'est le championnat d'Océanie avec aussi une belle quatrième place.
Oui, là aussi fantastique parce que les jeunes filles ont eu très très peu d'entraînement en commun, très peu de préparation. Donc effectivement, je tiens vraiment à féliciter l'ensemble de la délégation. De chaque jeune fille qui ne sont pas parties puisqu'il faut des groupes de assez importants et pour la préparation, tout le staff technique, vraiment la fédération a fait ce qu'on a pu et effectivement en obtenant des beaux résultats avec vraiment l'idée de travailler aussi pour de laisser un bel héritage et de travailler pour l'avenir et notamment dès l'année prochaine, dès 2025 avec d'autres qualifications pour ces Coupes du Monde.
Oui, on y vient, 2025, après une année compliquée, mais malgré tout avec des bons résultats. la Super League va reprendre, les joueurs vont pouvoir reprendre le chemin des terrains, des entraînements, des matchs, et après ça va suivre avec les sélections. Qu'est-ce qu'il est prévu en 2025, dès la reprise là,
On s'adapte. Le schéma n'est pas encore complètement établi, mais on y travaille. De toute façon, ça ne pourra pas être pire que ce qu'on a vécu en 2024. Donc, ce ne sont que des belles échéances et tout le monde est fin prêt.
Merci beaucoup pour ces quelques minutes que vous nous avez accordées aujourd'hui, Johan Sidana. On rappelle, vous êtes sélectionneur donc, de l'équipe A de Nouvelle-Calédonie, qui va participer aux demi-finales de la qualification pour la Coupe du Monde et aussi responsable des sélections. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci bien. Allez, on va prendre maintenant connaissance des résultats sport du week-end en Calédonie, Michael Juneski. Et il y avait plusieurs rendez-vous de fin de saison, hein, c'est normal. On approche du terme de la plupart des saisons dans les disciplines, notamment. C'était le dernier concours de l'année de pêche au gros.
Exactement, le Simrad Big Game Classic du CNC. Ça se passait samedi. L'équipage de Dark Knight et son propriétaire Vincent ont remporté ce concours avec la plus grosse prise, un marlin de 95 kilos. Les images impressionnantes, hein, vous pouvez les consulter d'ailleurs sur le site internet d'RRB. Ce concours, le mieux doté du territoire, représentait également la dernière épreuve de l'année, donc, alors que le calendrier 2024 a largement été contraint, évidemment. Écoutez la joie de l'ensemble des participants.
Super, bonne journée, le vent était agréable, un peu chaud, mais donc il y avait du poisson. On a décroché un marlin, fait un maï-maï, 3 ou 4 bonites, on a eu pas mal de décrochés de divers poissons, donc bonne journée.
Du coup, il y a quand même eu ce fameux concours le plus important de l'année. Ça faisait quoi de participer, d'être présent pour cette dernière?
Bah, ça fait du bien, en fin de compte, tout simplement. C'est se retrouver et puis passer un bon moment ensemble.
Alors, racontez-nous, c'est quoi que vous avez comme prise?
Du coup, de maï-maï. Et on est allé les pêcher au DCP du Mato et aussi à Silly Dever aussi. Ça va, la mer, elle était un peu agitée. On avait un petit bateau, mais ça allait.
On a raté un waouh à la fin.
Moi, c'était mon premier concours et c'était super. Ça donne envie de refaire, quoi. Le moment où tu vois que la ligne est part et tout ça, bah, c'est bien, quoi. J'aime bien.
Bah, nous, on pique un poisson à 6h30, on le relâche à 7h et après, on en décroche un deuxième. On a relâché un marlin sur les coups des 7h et voilà, on a joué le prix release, quoi. Parce que c'était un petit poisson, donc on a préféré le relâcher, quoi. 60 kilos.
Le no-kill, ça aussi, c'est une pratique en vogue, ça fait partie du plaisir.
C'est clair, ça fait partie du sport. Et on se dit quand même que voilà, ça permettra au moins aux prochaines générations d'en attraper aussi. Donc on remet tous ceux qui sont en dessous de 100 kilos, on relâche, quoi. Voilà, par principe.
Voilà, un grand bravo à l'équipage de Dark Knight.
Bah, je m'appelle Vincent, voilà, propriétaire du Dark Knight, et voilà, aujourd'hui on a eu de la chance.
Voilà. Comment ça s'est passé aujourd'hui ce concours alors globalement?
Bonne journée, bonne ambiance.
Surtout une belle pièce à l'arrivée. Hein.
Oui, voilà, très content. Bah, c'est mon premier, je suis content. Ça me permet de se retrouver. Surtout, moi je suis en brousse, donc les copains on les voit pas trop. Donc après, c'est une manière de se retrouver, partager un moment de convivialité, quoi.
Voilà, une belle ambiance hein, jusqu'à l'arrivée à 17h au CNC. Notez que 192 pêcheurs étaient en lice pour ce concours, un record pour le Simrad Big Game Classic. La fin de saison aussi pour le VA samedi, les championnats territoriaux V6 mixtes longue distance sur 15 km dans des conditions difficiles. Le club des îles Soulevent a trusté les deux premières places sur le podium avec des chronos d'1h07min34s et 1h10min2s. L'équipage de Touapin complète le podium, 1h10min23s. Écoutez deux des membres de l'équipage victorieux, Gaëtan Siakinou et Nathalie Viratel.
Ça s'est bien passé, on a pris un bon départ, on est parti vite. Du coup, après, on a réussi à garder notre avance tout le long. C'est la dernière course, 14 décembre, c'est vrai que c'est vraiment la fin, juste avant les fêtes.
Ça commence à faire mal?
Ouais, ça commence à faire mal. Là. Bah, heureusement, la saison elle a été courtée parce qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu cette année. Mais franchement, ouais, ça fait du bien de revenir, de refaire des courses et là, c'était la dernière, donc du coup, on a tout donné pour la dernière.
Ah oui, surtout le mental aussi, parce qu'il fait très chaud. Donc, si le mental ne suit pas, tu as beau avoir les bras, tu vas vite lâcher. Pour tous les rameurs en général, hein, on était très contents que le calendrier y reprenne. On enchaînait des courses pendant à peu près 2 mois, là, donc ça a fait du bien.
Et le club des îles Soulevent a aussi remporté les courses en kayak de place mixte devant les deux équipages du kayak club Nouméa. Enfin, chez les loisirs, la victoire est revenue à l'Olympique Va devant le PC d'Imbéa et le club de Touapin. Les championnats de Nouvelle-Calédonie d'haltérophilie, c'était samedi également à l'Institut du Mont d'Or. Des titres chez les seniors décrochés par Demi Dabin et Sylvain Duclos. On signera aussi les minima pour les prochains championnats de France junior de Mathis Sacco chez les moins de 15 15 ans ou encore de Anne-Mère Régnat chez les moins de 17 ans. La saison de basket s'est terminée également ce week-end avec cette initiative de la Ligue, un terrain de 3 contre 3 installé au Quai Ferry, des matchs en plein air avec vue sur mer pour la plus grande joie des pratiquants, une centaine de joueuses et de joueurs qui participaient à cet événement. Stéphane Saminadin, en charge du basket 3 contre 3 à la Ligue de Nouvelle-Calédonie.
C'est un peu la spécialité du 3-3 où on a un peu notre terrain qu'on peut transporter un peu n'importe où. Bah dans le monde, ils le font un peu partout. On l'a déjà vu sur la place du Trocadéro en face de la Tour Eiffel. En Australie, ils le font dans des centres commerciaux. Et nous, on a dit, bon, bah pourquoi pas essayer de le faire un jour au bord de mer, hein, parce que ça, c'est vraiment magnifique, quoi. Donc le spot ici sur les quais ferry, bah, voilà, il était idéal. Leur terrain est rentré juste. Donc voilà, trois jours impeccables, quoi. Il y a eu du monde qui est passé, ils se demandaient ce qui se passait, ils entendaient la musique, ils s'arrêtaient 5 minutes. Et justement, voilà, c'est de mettre de la visibilité sur cette discipline qui est en train d'émerger partout dans le monde. Et voilà, nous, on a lancé le truc et il fallait qu'on fasse notre part aussi du travail pour le 3-3. Il faut trouver des endroits insolites, c'est ça.
Un événement qui était aussi la dernière date de l'année donc pour le basket. Et puis, en tennis de table, la fin des championnats par équipe en senior, victoire du Mondor face à Magenta. Chez les moins de 12 ans aussi, le Mondor s'est imposé sur Magenta. Chez les moins de 15 ans, cette fois, c'est l'équipe de Magenta qui l'a emporté.
Voilà donc pour les résultats du week-end sport sur le territoire. Il y a aussi les Calédoniens engagés à l'extérieur, notamment en triathlon, Michael.
Plusieurs de nos représentants participaient aux mondiaux d'Ironman en Nouvelle-Zélande, à Taupo. Et notamment Bernard Laigle qui a réussi à terminer deuxième dans la catégorie des 70-74 ans. Il a parcouru les 1900 mètres de natation, 90 km de vélo, 21 km de course à pied en 5h29 minutes et 34 secondes. Bernard Laigle donc de la JSVDT qui termine à quelques secondes seulement du vainqueur, un autre Français qui devient par la même occasion champion du monde, Gilles Macheret, venu de Vitrolles. Encore des Calédoniens engagés, Franck Santos de la Sport Pro qui était aussi en lice chez les 40-44 ans, tout comme Alexandre Bressy de la Estrie Mondor et Yoann Rossignol sous les couleurs du CTNC. Ils se sont classés respectivement 36e, 182e et 231e sur 443 participants. Chez les 50-54 ans, Nicolas Sieselski du CTNC a fini 187e sur 362 participants. Et puis encore en lice, Eric Broutet de la GSVDT qui a terminé 82e chez les 60-64 ans. Du côté des féminines, Alexandra Grandjon a terminé 51e dans la classe des 25-29 ans.
Et puis on va terminer avec de la voile. C'est la course que les marins de la région ne manqueraient pour rien au monde. La Sydney Hobart, elle partira le 26 décembre de la capitale du New South Wales pour rallier la Tasmanie dans une mer et des conditions météo toujours compliquées. Cette année encore, il y aura un équipage calédonien, celui de Pulpito, skippé par David Tréguier, qui va participer à sa troisième Sydney Hobart consécutive.
C'était pas une évidence, mais c'est une sorte de drogue. J'ai eu la chance de la faire en 2022 avec mon bateau, en 2023 avec le bateau des copains de iCandy, et j'avais l'envie d'y retourner cette année avec mon bateau et un équipage différent.
Qu'est-ce qui change d'une édition de la Hobart à l'autre? C'est la préparation, c'est l'équipage, c'est l'envie aussi peut-être? Il y a peut-être des motivations différentes?
L'expérience, la voile c'est un sport d'expérience, donc on évolue énormément là-dessus. Et puis la météo, en fait, on a beau faire toujours le même parcours, c'est jamais la même course, la météo est toujours différente. Les deux dernières courses, on a eu à chaque fois 40 nœuds et plus. Et même là, sur le convoyage, donc de partir de Nouméa pour arriver jusqu'à Sydney, on a prévu la semaine prochaine d'avoir un front, passage de front à 35 nœuds. Donc qui devrait nous mettre un peu dans l'ambiance des mers du Sud.
Et sur les 8 membres d'équipage, 4 naviguent toute l'année sur Pulpito. Les 4 autres viennent d'autres bateaux calédoniens habitués des régates dans le lagon. Et même si la Sydney Hobart est avant tout une aventure, cela n'empêche pas d'avoir des objectifs, explique David Tréguier.
Il y a une compétition un peu en interne. On est 6 bateaux identiques, 6 Sydney 38. Donc le but est de finir au mieux possible dans ces 6 bateaux.
Cette année, il n'y a pas eu la Groupama Race, que tout le monde attendait, qui a été annulée pour les raisons que l'on sait. Ce type de compétition, comme la Sydney Hobart, pour les marins, c'est vraiment important dans la région de pouvoir participer à ce genre de régate.
Bah, c'est la compétition phare du monde du bateau en Pacifique. Ça draine entre 100 et 120 bateaux tous les ans, à la même période. Donc c'est vraiment quelque chose d'important.
Et est-ce que c'est aussi important de connaître justement la course, de connaître les à côté, de savoir comment ça se passe, de l'avoir déjà faite? Est-ce que ça vous donne une certaine tranquillité dans la préparation?
Ma course aujourd'hui est complètement différente de celle d'il y a 2 ans. C'est sûr que je pars avec nettement plus de sérénité et d'expérience sur comment appréhender les choses et la préparation.
Ouais. Et Pulpito a pris la mer samedi et de Nouméa pour rallier à Sydney. Une fois sur place, il restera à son équipage quelques jours de repos qui seront aussi mis à profit pour peaufiner la préparation du bateau. Le départ de la course, lui, ce sera le 26 décembre. Midi 22, c'est la fin du magazine des sports sur Radio Rythme Bleu. La suite d'Infomag, c'est avec Thierry jusqu'à 13h. 13h, ce sera l'heure du rappel des principaux titres de l'actualité.
L'actualité ne s'arrête jamais sur rrb.nc.